Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplin. Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Frédéric Michaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général d'Opinion Way et enseignant à Sciences Po, également auteur de deux ouvrages récemment, Le Sacre de l'Opinion et Le Gouffre démocratique. Ces deux ouvrages sont publiés par les éditions du CERF. Alors, l'annonce du gouvernement devait être imminente, elle était annoncée pour ce soir. En tout cas, le président de la République et le Premier ministre se sont entretenus à plusieurs reprises aujourd'hui. Ils seraient d'ailleurs encore en train de se parler. Mais en tout cas, vous nous disiez tout à l'heure, c'était Raphaël Delvolvé, eh bien, ce ne sera pas pour les prochaines minutes, à moins que ce soit Aurélien de Vernoy du service politique de RFI, lui aussi. Et on vous retrouvera tout à l'heure pour nous parler du RN. Aurélien, donc, il n'y a pas d'annonce du gouvernement ce soir.
Non, il n'y a pas d'annonce du gouvernement ce soir. J'étais en ligne, justement, avec Matignon, pour des raisons qui sont liées, en tout cas officiellement, sur des raisons de vérification. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous nommez un gouvernement, s'il y a de nouveaux entrants par rapport au gouvernement précédent, ces nouveaux entrants, il faut vérifier qu'il n'y a pas de souci auprès de la Haute Autorité de Transparence pour la Vie Publique. Et donc, ça demande toujours un peu de temps. On est dimanche, donc ce n'est pas forcément la meilleure journée aussi pour faire les vérifications. Donc, apparemment, il y a aussi cet enjeu-là. C'est vrai qu'on a parlé, en tout cas des confrères ont parlé de blocage sur certains noms, pour certains postes, mais c'est vrai qu'il y a cette étape qui est quasiment impossible à enjamber, qui est de vérifier qu'il n'y a pas de souci pour éviter derrière d'avoir un ministre ou une ministre qui soit obligé de partir parce qu'un problème sur sa déclaration de patrimoine, etc.
Voilà, c'est ça. Souci avec les impôts ou bien des conflits d'intérêts. Frédéric Michaud, on a vu que dans le passé, ça avait justement plombé certains gouvernements dès le début. Hein.
Oui, alors ça, c'est toujours un délai technique incompressible. Alors, j'imagine qu'on peut quand même faire travailler les fonctionnaires de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, de la vie politique pendant le week-end, étant donné l'urgence à nommer un gouvernement. On peut imaginer qu'il y a aussi d'autres raisons qui tiennent soit aux personnalités qui sont envisagées, soit à la ligne politique qui est anticipée pour le périmètre des différents ministères dans le futur gouvernement.
Alors, François Bayrou a toujours été le chantre du dépassement en politique. Il veut donc que son équipe comprenne des personnalités de gauche comme de droite et du centre. Un tiers, un tiers, un tiers, ce serait la composition idéale de son cocktail, Aurélien de Vernoy.
Oui, mais ça, cette composition a disparu il y a déjà quelques jours, puisque de fait, les partis membres du NFP ayant accepté de discuter avec François Bayrou, c'est-à-dire tout le monde sauf les Insoumis, ont dit qu'ils ne rentreraient pas au gouvernement. Donc derrière, si vous voulez faire rentrer des personnalités de gauche, il faut trouver des personnalités de gauche qui ne sont plus dans ces partis. Et il ne reste quand même pas grand monde, à part aller chercher soit des micro-partis qui ne représentent finalement pas grand-chose, je pense par exemple au Parti radical de gauche, ou alors des personnalités qui sont sorties des partis. Et là, on peut considérer qu'elles ne sont peut-être plus complètement représentatives de la gauche. Dernièrement, l'ex-maire de Dijon, François Rebsamen, s'est dit disponible pour entrer au gouvernement.
Ancien socialiste.
Oui. Ancien socialiste, sauf que François Rebsamen, ça fait 7 ans déjà qu'il soutient Emmanuel Macron. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est une personnalité de la gauche actuelle. Ce fut une personnalité de gauche, mais ça ne crée pas un équilibre au sein du gouvernement.
Alors que les uns et les autres travaillent et se retrouvent au sein de ce gouvernement Bayrou, Jean-René Cazeneuve, député macroniste, y croyait, c'était ce matin sur France Info.
Alors je reste optimiste, je vois le verre d'Armagnac à moitié plein. Je suis persuadé que dans les quelques heures, les quelques jours, et les socialistes, que c'est d'eux dont on parle, et les Républicains vont rejoindre cette coalition attendue par M. Bayrou.
Alors ces dernières heures, les noms de l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne ou de l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin étaient évoqués, tout comme celui de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, figure des Républicains. Parmi les sortants, Catherine Vautrin, Rachida Dati, Sébastien Lecornu pourraient rester probablement au même portefeuille. Autrement dit, on prend les mêmes et on recommence. C'est ce que dit le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu, sur BFM TV.
Qui comprend ce que veut faire François Bayrou ? À part recycler tous ceux qui se sont trompés, tous ceux qui ont liquidé le pays, remettre les mêmes, le jeu des sept familles, les républicains, des socialistes, des macronistes, etc., qui ont redistribué les cartes, pour faire quoi ? Avant de s'occuper de distribuer des postes, même s'il faut créer un gouvernement, il faut peut-être avoir une ligne, il faut peut-être un peu s'exprimer. François Bayrou, par exemple, aurait pu nous faire rentrer, nous les parlementaires, un peu plus tôt. Il faut attendre le 14 janvier pour une déclaration de politique générale.
Alors toujours dans le même camp politique, sachant que pas moins de 4 dirigeants du RN étaient sur les plateaux et les studios de radio aujourd'hui. Thomas Ménager, député du Loiret.
Ce qui est le plus important, c'est pas le casting, clairement c'est le scénario, on l'a toujours dit, c'est le cap, quelle va être la ligne de ce gouvernement, la ligne de M. Bayrou qu'on ne connaît pas, on ne sait pas forcément exactement où il souhaite aller. Et d'après les premières rumeurs actuellement, on a quand même le sentiment qu'il n'y aura pas de grande nouveauté, que ça va être un peu un gouvernement de seconde main. Alors le recyclage est dans l'air du temps, mais avec un certain nombre de personnalités qui ont échoué, qui ont été battues et qui reviendraient dans ce gouvernement. Et quelqu'un comme M. Bertrand qui avait dit qu'il fallait casser la mâchoire du Rassemblement National, c'était pas forcément le bon profil pour permettre de débattre avec l'ensemble des groupes politiques à l'Assemblée nationale. Et si les ministres avec... dans n'importe quel portefeuille, on attendra de voir si déjà ils rentrent dans les rangs et dans les rangs de M. Bayrou qui veut travailler sans semble-t-il, avec l'ensemble des groupes politiques.
Mais si c'est par exemple lui qui porte le budget, ministre de l'économie,
ça serait un très mauvais signal.
Voilà donc pour le Rassemblement national. Je signale donc que les autres formations politiques n'étaient pas sur les plateaux aujourd'hui, peut-être parce qu'elles étaient derrière leur téléphone à envoyer des SMS et à négocier peut-être des postes. En tout cas, ce nouveau délai, hein, il va falloir encore attendre un peu. On ne sait pas d'ailleurs combien de temps. Frédéric Michaud, ça pose question.
Oui, ça pose question. En fait, on voit bien, au-delà des problématiques techniques de vérification de l'absence de conflit d'intérêts, que la difficulté, elle se situe du côté des personnalités qui pourrait rentrer, du côté de la ligne politique, et que tout ça génère d'intenses tractations entre des partis qui sont multiples, entre Matignon et l'Élysée, entre Matignon et les différentes composantes de l'ex-majorité présidentielle, puisque c'est une minorité, donc Horizon, le Modem, Ensemble pour la République, entre les Matignon et les membres du socle commun, c'est-à-dire avec les Républicains, au sein des Républicains eux-mêmes, avec éventuellement le Parti Socialiste. Bref, des interlocuteurs multiples, des sujets qui sont porteurs de clivages forts. Je pense notamment, par exemple, à la question des retraites. Tout ça génère évidemment d'intenses tractations et ça prend du temps.
Et c'est compliqué parce que demain, Raphaël Delvolvé nous disait tout à l'heure dans le journal, demain c'est la journée de deuil national concernant Mayotte. Or, en début de semaine, déjà François Bayrou avait eu maille à partir avec ce cyclone puisqu'il est allé au conseil municipal de Pau. Donc comment se sortir de cette quadrature du cercle ? Après c'est le réveillon de Noël, après c'est Noël, ensuite ça reporte à jeudi. Avant de vous écouter en commentaire, Aurélien Devernois.
Alors c'est toute la difficulté. Et d'ailleurs, je pense que Matignon n'est pas complètement à l'aise avec ce timing qui est en train de se mettre en place. Tout le monde dit « adressez-vous à l'Élysée ». Parce que je pense que François Bayrou n'a pas envie d'assumer une éventuelle annonce d'un gouvernement, puisque ça sera fait par l'Élysée, le jour du deuil national à Mayotte, alors qu'en effet, comme vous le disiez, Philippe, il a déjà fait des erreurs sur ce sujet. Donc je pense qu'il y a un petit malaise à ce sujet. Mais, et pour revenir sur la question de la ligne, c'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, la ligne qui est pour l'instant imposée par Emmanuel Macron, c'est la défense de son bilan. Ce qui n'est pas évident quand on doit faire un budget d'austérité et puis quand on doit relancer un petit peu la machine institutionnelle. Quand la ligne, c'est de dire bah, « en fait, tout ce qu'on a fait avant, c'était super et il ne faut surtout pas y toucher », ça pose des difficultés parce que ça ne laisse globalement aucune marge de manœuvre à François Bayrou et pas beaucoup de marge de manœuvre non plus aux discussions au Parlement. Donc c'est un vrai sujet en effet.
Justement Frédéric Michaud, est-ce que c'est pour se prémunir d'une nouvelle censure que François Bayrou essaie d'attirer dans son gouvernement des personnalités de poids et de tous bords ?
Oui, et c'est aussi pour prendre le contre-pied de ce qu'avait fait Michel Barnier. Michel Barnier avait explicitement choisi de ne pas prendre de poids lourd, de ne pas prendre de présidentiable pour que l'action de son gouvernement se concentre sur le règlement des problèmes, sur l'intérêt national et pas sur une éventuelle dissolution ou une présidentielle anticipée ou même la présidentielle prévue en 2027. La conclusion que tire le nouveau Premier ministre, c'est que cette stratégie a échoué et en mettant des personnalités de poids qu'on peut être peut-être exercer des responsabilités dans des grands ministères sous des gouvernements précédents, eh bien peut-être qu'il y aurait un savoir-faire, une forme de professionnalisme qui permettrait de nouer des relations un peu plus directes avec les parlementaires à l'Assemblée et de repousser le risque de la censure.
Le Premier ministre entame donc sa mission avec une cote de popularité historiquement basse. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint d'Opinionway, donc un institut de sondage. Là, c'est un chiffre donné par vos collègues de l'IFOP pour le journal du dimanche aujourd'hui. 66% des personnes interrogées sont déjà mécontentes de l'action de François Bayrou.
Oui, c'est un score historiquement bas pour un Premier ministre qui vient d'être nommé. On a bien vu dans les études conduites cette semaine à quel point les premiers pas très critiques et très critiqués du Premier ministre ont été jugés sévèrement dans l'opinion. Il a donné, à travers sa volonté de maintenir sa présence au conseil municipal de Pau, le sentiment de ne pas comprendre ce qu'est sa nouvelle fonction. Premier ministre, vous devez répondre à l'urgence. Ce n'est pas vous qui êtes maître de votre calendrier, vous devez répondre à l'urgence. On comprend ce qu'il voulait faire, montrer une forme de proximité avec les Français, montrer qu'il est en contact avec le terrain. Là, il y a eu une erreur de communication.
Parce qu'il y avait Mayotte. Hein.
Majeure, en raison de la crise à Mayotte. Le lendemain, oral, premier grand oral raté dans l'hémicycle, avec de longues digressions, le sentiment de ne plus vraiment être en phase avec la rapidité de la communication politique actuelle.
Et que Mayotte était à l'étranger.
Et que à nouveau des difficultés, des fautes même de communication. Bref, un sentiment global de tâtonnement et même d'impréparation qui a été très visible la semaine dernière.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
En déplacement à Mayotte, justement dévasté par le cyclone Chido, le chef de l'État s'est emporté au milieu d'une foule qui le prenait à partie. C'était jeudi soir.
Tout le monde se bat, quelle que soit la couleur de peau. Et n'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si ce n'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité.
Si c'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. C'est époumoné le président de la République pour se faire entendre face aux cris de Macron démission. Un président ne peut pas dire ça, c'est ce qu'a dit le chef du Parti Socialiste, Olivier Faure. Autre critique acerbe, celle du vice-président du Rassemblement National, Sébastien Chenu.
Je pense que le président de la République, au lieu de cracher son venin sur le Rassemblement National, je crois qu'il le peut de façon un peu, sincèrement, décalée par rapport à ce que Mayotte traverse, devrait être humble. La situation de Mayotte devrait l'amener à beaucoup d'humilité, ni à engueuler les Mahorais, comme il l'a fait d'une façon sincèrement assez désinvolte, ni à pointer des responsabilités qui n'existent pas chez ses adversaires politiques. La situation de Mayotte, elle ne date pas d'aujourd'hui. Avec Marine Le Pen, moi je me souviens, nous étions députés quand en 2018 nous avions déposé déjà une proposition de loi pour revenir sur le droit du sol.
Et ce midi sur RTL, le ministre démissionnaire des Outre-mer, François-Noël Buffet, disait ceci.
J'étais présent. Ça devait être une rencontre simple, normale. Ça s'est transformé en ring de boxe, des noms d'oiseaux à l'égard du président de la République. On peut comprendre que quand on voit la situation de Mayotte, la détermination qu'est la nôtre, et qui est aussi la sienne d'ailleurs, de vouloir reconstruire et de se consacrer à Mayotte et terminer une journée en étant à ce point-là mise en cause. Vous savez, c'est surtout affaire de circonstances. Il y a des moments, j'ai été maire pendant de nombreuses années, j'ai eu des réunions parfois extrêmement difficiles, et par moments, on a envie de se libérer et de dire les choses.
S'est emporté.
Mais je pense qu'il s'est emporté, bien sûr.
Frédéric Michaud d'Opinionway, le fond versus la forme. Ce propos brouille le message d'empathie, de reconstruction distillé pendant le reste de sa visite par le président de la République. Mais ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron parle vertement. Le chef de l'État aime ainsi aller dans le rapport de force.
Oui, alors il y a à la fois aller dans le rapport de force, il y a aussi le fait, justement, ça vient d'être dit, d'oublier ce qu'est la fonction présidentielle. La fonction présidentielle, c'est la capacité à concentrer sur soi les critiques, à les accepter, grande critique parce que les pouvoirs du président sont immenses, mais aussi la parole présidentielle, c'est celle qui doit apaiser, c'est celle qui doit protéger, c'est celle qui doit rassembler. C'est ce que faisaient tous les présidents de la République jusqu'à Jacques Chirac. Et puis depuis la mise en place du quinquennat, on a vu des présidents de la République avec une rhétorique, avec un verbe beaucoup plus clivant, d'une part, c'est-à-dire moins rassembleur, et d'autre part, qui s'est laissé aller à beaucoup de grossièreté, beaucoup de vulgarité. Alors, évidemment, ça ne correspond pas au prestige qu'on attend de la fonction présidentielle. Ça la dessert très fortement, et ça affaiblit la légitimité de celui qui tient de tels propos.
Un mot, Aurélien ?
C'est vraiment le côté Sarkozy, finalement, d'Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy a été le premier, en réalité, à tenir un petit peu ce type de discussion très, on va dire, du tout venant avec les gens. Il avait été interpellé, je me rappelle, sur un déplacement. Il avait dit à l'époque « casse-toi, pauvre con », etc. Ça, c'est vraiment du sarkozysme repris par Emmanuel Macron. Mais ce que dit Frédéric Michaud est très juste, c'est-à-dire que quand vous êtes président de la République, vous êtes président de la République. Et quand on interpelle la République, on ne vous interpelle pas vous. Et je pense que des fois, avec Emmanuel Macron, il y a une forme de confusion entre ce que disent les gens, c'est-à-dire qu'ils s'adressent à la République, ils ne s'adressent pas à Emmanuel Macron, l'homme. Et lui, le prend personnellement, ce qui est une erreur en fait d'analyse et du coup amène à des erreurs de réaction.
Revenons au nouveau gouvernement et à son avenir, discours de politique générale mi-janvier et la question de la censure. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon de LFI, les mêmes causes produiront les mêmes effets, il n'y a pas de majorité pour le budget, donc il y aura un 49-3 et donc il y aura une censure. Cette censure, le RN n'annonce pas déjà qu'il la votera, comme il l'a fait pour celle qui a renversé Michel Barnier. Revenons justement sur les conséquences politiques de cette décision. Il y a deux semaines, Raphaël Delvolvé, est-ce pour mieux s'affirmer dans le paysage politique que Marine Le Pen a appuyé sur le bouton le 4 décembre.
Alors, nul n'est dans sa tête, mais on s'aperçoit quand même depuis la censure qu'il y a une forme de jubilation, de soulagement même dans les mots et même sur le visage de Marine Le Pen. Cette marginalisation par les autres partis semble faire partie du plan parce que le RN a été propulsé et revenu brutalement comme ça dans l'opposition comme principale force. Marine Le Pen, vous savez, elle a trouvé ça très positif d'avoir été accueillie en premier lundi à Matignon pour les premières consultations de François Bayrou. Cette marginalisation, c'est un peu un retour aux sources pour le RN, anciennement FN, parce qu'il doit cette progression comme ça constante dans les urnes à son inexpérience du pouvoir qu'on résume souvent, vous savez, sous le fameux « on n'a pas essayé ». Difficile non plus de ne pas voir un moyen d'influencer les juges, vous savez, qui auront la lourde tâche de dire le 31 mars prochain si oui ou non elle est condamnée à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire.
Justement, en raison de cette menace, n'aurait-elle pas non plus intérêt à une élection présidentielle anticipée ?
Eh bien ça aussi, c'est une évolution notable chez Marine Le Pen depuis la censure. Bien qu'elle n'appelle pas ouvertement Emmanuel Macron à la démission, elle ne cache plus se préparer à une telle éventualité. Elle l'a dit au journal Le Parisien cette semaine, je vous la cite, « Je me prépare par précaution compte tenu de la fragilité du président. » Les membres du RN ne cessent d'ailleurs de qualifier désormais le chef de l'État comme l'élément perturbateur de la crise politique actuelle. Alors on est encore loin d'une démission, l'intéressé rejette l'hypothèse, mais pour le moment, dans les sondages, Marine Le Pen ne souffre absolument pas de la censure. Elle obtiendrait entre 36 et 38% des voix si le premier tour avait lieu cette semaine.
Frédéric Michaud, vous y croyez, cette présidentielle anticipée ?
Écoutez, le vote de la censure a montré que tout était possible. Il peut y avoir une accélération de la situation politique qui rendrait une présidentielle anticipée. Aujourd'hui, ce n'est pas le scénario le plus probable. J'ajoute que selon l'article 7 de la Constitution, une présidentielle anticipée doit avoir lieu entre 20 et 35 jours. C'est-à-dire que vous avez une campagne extrêmement courte. Et la dernière élection présidentielle en 2022 avait laissé énormément de frustration dans l'opinion. Il y avait eu toute une partie du débat qui avait été gelée par la guerre en Ukraine. À nouveau une présidentielle très courte qui ne jouerait pas son rôle de trancher les grands enjeux. Ce serait sans doute pas une bonne chose politiquement pour la France.
Frédéric Michaud, merci pour ces analyses et commentaires. Directeur général d'Opinion Way, Dimanche Politique, réalisé ce soir par Fabrice